C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
L'histoire, l'histoire avec un grand I, n'est-elle pas, au fond, qu'une succession d'épisodes sanglants, de guerres, de pillages, de carnages en tout genre? Prenons un exemple aujourd'hui, comme s'il nous en fallait un de plus pour terminer de se convaincre, et regardons le parcours de Henry Morgan, né en 1635 au Pays de Galles, mort en 1688 en Jamaïque. Cet homme violent et sans scrupules mena une vie de corsaire sur les océans, dépassant largement son rôle de lieutenant de la couronne britannique et profitant de ses excursions pour piller, éraser villes et villages, jusqu'à la fameuse mise à sac de Panama. Pour étudier avec nous la vie de Henry Morgan, considéré par certains et certaines comme le plus grand flibustier de l'histoire, bien qu'étant un très mauvais marin, la grande équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Aublin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors messieurs, peut-être pour démarrer cette nouvelle émission, peut-on commencer par décrire comment débute la vie de Henry Morgan ?
Il naît parmi les moutons au Pays de Galles. Ses parents tiennent une auberge et tout petit, il découvre la nourriture épicée. Il apprend à manger corsé et donc logiquement devient corsaire.
Et c'est tout à fait... c'est pas anodin le fait qu'il grandisse dans cette auberge entourée de moutons, puisque dès son plus jeune âge, le tempérament violent de Morgan, Henry Morgan bien sûr, va déjà se montrer puisqu'il il s'amusait, parce que c'était vraiment un amusement pour lui, à se lancer tête contre tête contre les béliers qui étaient dans le champ à côté de l'auberge. Donc déjà dès son plus jeune âge, on sentait que voilà, il allait être quelqu'un de violent.
Quelqu'un de violent qui va voilà, batailler contre les béliers très jeunes. Comment se déroule son enfance ?
On le prend pour un attardé. Tous les gens qui viennent manger à l'auberge le voient se jeter contre les béliers la tête la première. On l'appelle l'abruti. L'abruti de... Je ne me souviens plus. De Stotheim. L'abruti de Stotheim, qui est la ville où il a grandi dans le Pays de Galles. Donc une enfance un petit peu isolée,
entre les animaux et les moutons particulièrement.
Oui,
est-ce qu'il
voilà.
avait des amis ?
Bah non, justement, très, très peu d'amis. Son premier ami finalement va être un marin justement, un marin qui viendra lui déjeuner à l'auberge un jour. L'auberge était très loin des côtes en fait, donc c'était assez extraordinaire de voir un marin. Henry Morgan n'en avait jamais rencontré, il a alors 7 ans. Et à ce moment-là, il rencontre ce marin qui va devenir finalement une nouvelle figure paternelle pour lui, car son père était beaucoup trop mou, beaucoup trop tendre à ses yeux.
Et lui, ce marin, James Lassac, lui offrira son bicorne en lui disant porte ce chapeau, comme ça tu auras des cornes comme les béliers. Et du coup, avec ce bicorne, il l'a chéri, il se disait moi aussi je suis un bélier maintenant, je peux me confronter à ces animaux et ça l'a conforté dans sa vocation de marin. C'était un symbole très fort pour lui, ce bicorne.
Donc un symbole très fort à 7 ans environ. Est-ce qu'il y a eu des impacts comme de cette guerre contre les béliers ? On sait par exemple que pour les joueurs de rugby aujourd'hui, c'est un peu le même type, on va dire, de choc. Il y a un impact significatif sur le développement du cerveau et la santé des neurones, tout simplement.
Oui,
est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites là pour notre personnage ?
Non, des études approfondies, non, mais on s'en doute bien finalement que sa personnalité, que son tempérament, finalement, il le tire de là. Et qu'en effet, c'était un dégénéré, c'était quelqu'un de très violent. Il a été corsaire, il était censé donc représenter la couronne. Ce qu'il faisait ne représentait en rien la couronne, c'était sanglant, c'était un barbare.
Il en sort avec un physique atypique, tout de même.
Oui.
Le front, il avait le front était renfoncé. Il avait l'inverse d'une bosse, quoi.
Un creux
au niveau du front. Et ses arcades sourcilières étaient très très bas, parce qu'on voyait très peu ses yeux. Alors j'espère que les auditeurs peuvent essayer de se l'imaginer, sinon...
Imaginez une madeleine.
Oui, imaginez une madeleine.
C'est un peu la forme de ton visage.
C'est l'inverse d'une madeleine.
Comme si on était à l'intérieur de la madeleine et qu'on regardait vers l'extérieur.
En fait, si on prend une madeleine et qu'on pouvait l'insérer dans le front,
Ouais,
oui,
c'est
un Rimmel. Oui,
voilà, exactement.
C'est, ça, c'est,
voilà.
Ça. C'est comme une sorte de moule.
Insérer une madeleine dans comme le front de Rimmel. Ouais. Ouais. Et cette déformation crânienne lui posera des problèmes pour se trouver des couvre-chefs, d'ailleurs. Toute sa vie, il sera en quête d'un fameux couvre-chef, mais d'ailleurs qui a donné lieu à la mise à sac du Panama, parce que le Panama est un chapeau bien connu. Et donc, bah, en quête d'un chapeau qui lui allait, il a mis à sac cette ville.
Alors là, c'est vrai qu'on avance très vite dans l'histoire.
Non,
on
parlait
encore du moment où il avait 7 ans et qu'il a rencontré le premier marin de sa vie. Donc avant d'arriver à son, on va dire, son plus grand fait d'armes pour trouver son fameux chapeau, à partir de quel âge est-ce qu'il va quitter son auberge natale et qu'il va monter pour la première fois sur un bateau?
Bah, c'est là justement que enfin, la rencontre avec la SAC est vraiment déterminante, puisque dès le lendemain, il quitte l'auberge et fonce vers les côtes.
Donc il a 7 ans, il a 8 ans
Il a 7 ans, 7 ans. Il quitte son auberge, hop, et donc tout le monde est encore en train de dormir, la SAC lui-même est en train de se reposer à l'auberge, et dès le lendemain matin, plus aucun signe de Henry Morgan dans cette auberge. Et on dit que voilà, il est parti directement vers la côte par le chemin le plus court, vers l'océan.
Et il s'est pas perdu en chemin.
Alors,
si,
bien sûr.
Il arrivera à l'âge de 13 ans au niveau des côtes. Donc il a erré 5 ans dans le pays de Galles.
Mais alors, on dit errer, ce n'était pas une errance passive. C'est-à-dire que Henry Morgan, dès ce moment-là, fait déjà parler de lui dans le pays de Galles. Durant ces 6 années où il va parcourir le pays, parce qu'il va faire quand même quasiment le tour du pays avant de trouver l'océan. Il va justement faire parler de lui à travers des bagarres, à travers des vols, à travers voilà, des choses qu'il va soit enrôler dans des bandes de voyous.
Pendant un moment, il fera partie d'un cirque aussi.
Oui, tout à fait.
L'homme anti-Madeleine.
Oui, les gens pouvaient payer pour insérer une Madeleine à la place de son front.
Ce qui énervait énormément Henry Morgan. Enfin, il était payé pour le faire, il était un peu pris en otage par ce cirque, par un monsieur du nom de Dibaldi. Qui vraiment l'empêchait de partir. Il était enchaîné et les gens venaient lui mettre des madeleines dans le front. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait monter aussi cette rage qu'il avait déjà un peu en lui.
Ça a nourri la colère, c'est clair.
Et il finira donc en prison parce que pour un dernier malencontreux fait où il s'est pris pour un loup et a commencé à essayer de dévorer le mouton d'un berger.
Pas essayé, il avait bien commencé.
Ouais, une bonne partie, en bas 60%.
Bon, oui. Enfin, il était pas loin de l'arrière-train, effectivement.
Ouais.
Et donc, il arrive à l'âge de 13 ans sur les côtes du Pays de Galles et cherche à se faire enrôler dans un bateau. Malheureusement, il est encore trop petit, trop frêle et un physique qui fait peur, hein, on ne va pas se le cacher.
Ouais, bien sûr.
Et il a une idée très maligne, c'est qu'il va se cacher dans un tonneau pour se faire embarquer sur une frégate. Et comme ça, une fois à bord, il est sorti du tonneau et... l'équipage de l'Hirondelle Bleue n'a eu que d'autre choix de le garder à bord puisqu'il était déjà sur le bateau au milieu de l'Atlantique.
Très bien, donc là on arrive à son premier pas sur un bateau à travers ce tonneau qui est un coup qu'on retrouve beaucoup dans l'histoire d'aller
Ah mais c'est lui qui l'a inventé.
C'est lui qui l'a inventé, le fait de monter.
À partir de là, de nombreux enfants se sont enrôlés comme ça sur des bateaux en se cachant dans des tonneaux.
Très bien, donc Henry Morgan, l'inventeur de monter sur un bateau à travers le fait de se cacher dans un tonneau.
Exactement.
Alors, on ne va pas plus loin, on écoute un petit morceau pour faire une petite pause musicale.
L'histoire, avec un grand I, sur Prune.
Et c'était Damso avec Cœur de Pirate, et nous voilà dans l'histoire avec un grand I. Alors, juste avant de se quitter, on évoquait le moment où Henry Morgan, caché dans un tonneau, met le pied pour la première fois sur un bateau. Et il s'agit de l'Hirondelle Bleue. En quoi ce bateau est particulier ?
Ce bateau, il est particulier d'abord dans sa fonction, puisque c'est un bateau de corsaire du capitaine Lagardon, à l'époque, qui est corsaire pour la couronne de France. Et donc, c'est un peu là aussi, il va se découvrir une vocation, Morgan, et atypique de par la forme. Puisque, en effet, vous l'avez étudié, Alexandre,
oui.
C'est un bateau qui dispose d'une paire d'ailes.
Oui, d'où son nom, l'Hirondelle Bleue, évidemment.
D'où son nom, l'Hirondelle Bleue. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une paire d'ailes sur un bateau à cette époque ?
Allez, Alexandre l'a étudié, je voudrais pas m'emporter, mais je crois qu'il pouvait s'élever un peu au-dessus du niveau de la mer. Mais...
Oui, le but de l'Hirondelle Bleue était de... de réussir à l'exploit de mettre un navire en apesanteur.
Et ça fonctionnait de temps en temps. C'est ce qu'on retrouve dans les journaux, oui, de bord du capitaine Lagardon.
Alors hélas, ça a causé sa perte, oui, puisque oui, en voulant rentrer dans un port, les ailes étaient très larges, mm, et du coup elles se sont prises dans deux phares de part et d'autre du port, oui, et mm, le bateau a sombré.
Les phares sont tombés sur le bateau.
Dans le port de Saint-Louis, c'était... Oui. Mm.
Carrément.
Voilà, oui. Henry Morgan n'était déjà plus sur le bateau à cette époque. Mais voilà, c'était la fin de l'Hirondelle bleue.
Mais on en rigole, mais c'était quand même une sacrée idée qu'ils avaient là. Il y avait de l'idée. L'idée était de se laisser porter par des tourbillons. Et grâce au système centrifuge, plus les ailes, l'idée était de voir si le bateau pouvait réussir à s'envoler. Ce qui aurait permis. Ce qui aurait permis des avancées militaires, peut-être.
Ça aurait changé la société.
En tout cas, ça aurait permis. Hein.
Ça aurait permis des choses, ouais, en tout cas, mais. Quoi
bon, alors là,
je sais pas trop.
Non, mais des choses.
Imaginez Ouais.
Oui, ils auraient qu'à.
Parce que si jamais on peut voler au-dessus de l'eau.
Ils auraient pêché des oiseaux, quoi.
Peut-être. Ouais, un peu comme les poissons volants.
Ouais.
Ouais.
Le trafic aérien.
Ouais.
Peut-être.
Ok, donc on a ce bateau avec une paire d'ailes qui est dans les mains de corsaires français. On en parle comme ça nous paraît tout à fait naturel, mais. Au moment de l'histoire où on s'est arrêté, Henry Morgan est toujours caché dans son tonneau.
Oui.
Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va rester là longtemps ?
Il va être découvert finalement par l'équipage à partir du moment où du vomi va commencer à s'extraire par les interstices du tonneau. En effet, pendant plusieurs heures, Henry Morgan va rester dans son tonneau, n'ayant pas du tout le pied marin. Il va contracter un mal de mer, mais fulgurant.
Fulgurant.
Voilà, il va se retrouver vraiment à se vider dans ce tonneau dans lequel il est même. Vu qu'à ce moment-là, il a très honte de ce qui est en train de se passer, et puis son passé de bête de foire qui finalement lui colle à la peau, il décide de rester caché dans ce tonneau. Et il va être trouvé par le capitaine Lagardon lui-même.
Donc c'est Lagardon qui le trouve, qui le sort du tonneau. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce qu'il est bien accueilli, on va dire, ou est-ce qu'au contraire...
Non.
Non.
Non, 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 non. Lagardon est énervé. Il a vomi dans un... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le petit Henry Morgan a vidé un tonneau de vin pour se cacher dedans.
Ah.
Un des plus grands crus du capitaine Lagardon. Et le capitaine Lagardon est foudrage et le jette au requin. Alors, on pourrait croire, on pourrait se dire, mais comment fait Henry Morgan pour se sortir de cette situation ? Eh bien, il va gagner le respect du capitaine Lagardon, car il ne se démonte pas. Au premier requin arrivé, le petit Henry Morgan essaie de lui mettre
un coup de boule.
Un coup de boule. Bon, le requin est à peine sonné, évidemment, c'est un grand requin blanc, en tout cas, c'est d'après les écrits. Mais ça suffira à faire en sorte qu'on décide de le repêcher avant qu'il se fasse complètement dévorer. Il y perdra un pied, toutefois.
Toutefois, oui.
Mais qui est vite remplacé par une jambe de bois.
Oui, voilà.
Il construira sa légende et voilà, à partir de là, il va vivre 2 ans à bord de l'Hirondelle Bleue à faire de la piraterie sur les côtes d'Amérique du Sud. Et effectivement, il découvrira que c'est un mauvais marin. Son mal de mer ne le quittera d'ailleurs jamais. D'où le surnom de Capitaine Vomi, qui le suivra jusqu'à sa mort.
Et voilà, il va parcourir comme ça, il va pirater toute son adolescence donc dans les mers des Caraïbes et en Amérique du Sud jusqu'au moment de la grande trahison, ce qu'on appelle la grande trahison, le moment où Henry Morgan finalement va trahir Lagardon.
Ah, donc là où les deux avaient l'air de bien cohabiter, si j'ai compris, après l'épisode du requin qui évoque un peu les premiers béliers, on va dire, qu'il avait bataillé enfant. Donc cette paire-là, elle ne fonctionne plus à ce moment-là.
C'est-à-dire que oui, en effet, Henry Morgan trouve une autre figure paternelle en la présence de Lagardon, mais... Assez rapidement, voilà, Lagardon veut se débarrasser d'Henry Morgan, qui est un fardeau, finalement, sur l'Hirondelle Bleue. Il ne sait pas naviguer, il ne sait pas ramener une voile, il ne sait pas où trouver le nord, il vomit en permanence, donc il va décider de s'en débarrasser. Henry Morgan ne le voit pas de cet œil-là, et alors s'ensuit un duel, finalement, entre le capitaine et Henry Morgan, un duel qui va être remporté par Henry Morgan, mais il y laisse des plumes puisque dans la bataille, le capitaine Lalvagardon va réussir à mettre un coup de pistolet finalement dans son bicorne, bicorne qui sombrera dans les eaux des Caraïbes.
Et c'est tragique pour lui parce que bah, ça représente ses combats contre les béliers, ça représente sa première figure paternelle.
Ce
pourquoi il est parti de chez lui. Pendant les 5 ans qu'il a erré dans le pays de Galles, il portait ce bicorne. Et donc Henry Morgan, âgé de 15 ans, arrive quand même à terrasser Lagardon et laissera l'équipage repartir. L'hirondelle bleue s'en ira de Cuba. Et Henry Morgan, volant les richesses, se trouvera à bord, se procurera un nouveau bateau, qui sera le bateau qui gardera jusqu'à la fin.
Le bélier.
Alors justement, ce duel entre nos deux protagonistes, duel fameux dans l'histoire la piraterie européenne, en tout cas, on le retrouve dans pas mal de films, dont cet extrait là que je vous propose d'écouter tout de suite.
Henri, maudit gallois, il est temps que tu quittes mon bateau.
Moi, jamais je ne quitterai ce bateau, c'est mon bateau.
Ah oui? Croisons le fer.
Regardez, le capitaine va se battre. Regardez, ils vont se battre.
Tu n'es qu'un vieux vomiteur.
Est-ce qu'on peut arrêter le bateau pour se battre, s'il vous plaît?
Oh, il va vomir.
Reviens ici.
Regardez, il va
arrêtez
vomir.
Arrêtez le bateau, par pitié. Arrêtez le bateau et je me battrai.
Arrêtez le bateau. Descendez la voile.
De tes lèvres.
Merci, ça va mieux.
Alors, Henri.
Battons-nous.
Ding, 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 ding. Ah, non.
Touché.
Ah, ça fait mal.
Vous vous videz de votre sang, Lagardo.
Je n'ai pas dit mon dernier mot. Bon. Et mon voilà.
Mon précieux bicorne.
Il est à l'eau maintenant.
Qu'avez-vous fait, Lagardo?
Tu n'es rien sans ton bicorne, Henri. Tu n'es qu'un gallois moche et qui a le mal de mer.
Capitaine, vous êtes blessé, capitaine.
Oui, je sais, mais je... Oh non, une flaque de vomi. Zouip.
Il est tombé dans l'eau. Capitaine. Henri. Henri, laisse-nous partir.
Pardon ?
Henri, laisse-nous partir, s'il te plaît.
Donnez-moi tous vos trésors. J'irai me refaire un bateau ailleurs.
Comment tu vas l'appeler, Henri ?
Le bélier. Bélier, animal totem qui me portera jusqu'à ma gloire et ma légende éternelle. Vous entendrez parler de moi comme le capitaine Morgan.
Donc on a là ce moment fameux où Henry Morgan terrassant son ancienne figure paternelle, on va dire, se fait un nom et devient Henry Morgan tel que l'histoire le connaît à présent, c'est-à-dire le corsaire avec son bateau.
C'est quand même un film étonnant. Il n'y a pas eu beaucoup de films sur la vie d'Henry Morgan. Et c'est un film à très petit budget. D'ailleurs, on l'entend dans le film, c'est bruit à la bouche.
Oui.
Donc voilà, effectivement, c'est vraiment... c'est pas très marquant.
Est-ce que le capitaine Lagardon a vraiment glissé sur une flaque de vomi?
Ça me paraît gros.
Ce que je veux dire, c'est que Guillaume a bien fait de choisir ce film, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que dans le film, dans le personnage d'Henry Morgan, joue un des descendants, finalement, d'Henry Morgan, qui joue Henry Morgan et qui a toujours cette malformation du front. Et je pense que c'est pour ça que l'acteur a été choisi. C'est pour ça que, en effet, le film n'a
pas
eu un gros budget.
C'est pas des effets spéciaux, ce front-là?
Non, c'est véritablement son vrai front. Et cette personne se présente comme descendant direct d'Henry Morgan. Donc quelque chose qui se traîne, finalement.
Ouais, après, en même temps, ça m'étonne pas parce que ça aurait demandé beaucoup de plastique et des effets concrets. Ça aurait coûté cher, quoi.
Parce que j'avoue que faire une bosse en termes de maquillage, d'effets spéciaux, ça va.
Faire
un creux.
Ouais.
Compliqué.
Ouais.
Très bien, donc là, à ce moment de l'histoire, pour reprendre un peu on va dire, la chronologie des événements, si vous le voulez bien, on a Henry Morgan qui prend possession de son nouveau bateau, le bélier, parce qu'il a profité pour voler toutes les richesses de l'ancien. À partir de ce moment-là, donc il a 15 ans, si je ne me trompe pas, quel tournant prend sa vie?
Alors, du coup, il va accoster en Jamaïque, où il va justement enterrer tous ses trésors, le fameux trésor d'Henry Morgan qui sera enterré en Jamaïque, qui va le cacher. Et ensuite, donc, il va chercher donc, son tout premier bateau. Au sens littéral, il va prendre un réel bélier, l'animal, le bélier, qu'il va vider finalement de ses organes et avec lequel il se fera une embarcation. Donc voilà, ce sera son premier bateau finalement, un véritable bélier.
C'est le bélier 1.
Le bélier 1.
Oui.
Et finalement, la tête de ce bélier sera conservée sur tous les autres béliers qui suivront sur tous les autres bateaux, finalement, de sa flotte.
En figure de proue.
Oui, parce qu'après, c'est plus des béliers vidés. C'est uniquement le premier bateau. Mais après,
oui, voilà. Après, c'est des vrais bateaux en bois. Non, le premier, il est seul dans son équipage, finalement.
Oui.
Il se lance à son compte, comme on pourrait dire aujourd'hui, dans la piraterie. Et ce n'est que plus tard qu'il sera repéré par la couronne pour devenir corsaire.
Il y a eu combien de béliers en tout ?
11
béliers.
11 béliers, oui.
11 béliers et à chaque fois la même figure de proue avec la tête du bélier originel.
Mais alors de plus en plus décomposé à chaque fois.
De plus en plus décomposé.
On le voit sur les tableaux d'ailleurs.
Sur le bélier 11, c'est seulement le crâne finalement.
Oui.
Qu'est-ce qui explique qu'il y en a eu 11? Ça fait beaucoup 11 bateaux dans une vie de corsaire.
Mais il est très mauvais marin.
Ah, très mauvais marin encore.
Ah ouais, il tient absolument à diriger le bateau. Voilà,
c'est le capitaine.
Oui, c'est le capitaine. Mmh. Mais à l'époque, des gens qui s'engageaient pour monter sur le bélier avec le capitaine Morgan étaient considérés comme des fous. Y avait très peu de... C'était vraiment des forcenés qui choisissaient de s'engager. On savait qu'on avait une chance sur deux de couler à chaque fois qu'on partait en mer.
Il devait très bien les payer pour conserver ses marins. Hein, et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle il a pu en avoir un équipage. Mais effectivement, je sais pas si vous avez déjà essayé de barrer un bateau avec le mal de mer. Moi, j'ai fait un peu de voile l'été dernier. Et j'ai pas trop le pied marin. Et barrer en vomissant, c'est compliqué. Hein.
On imagine la détresse d'Henry Morgan.
Ouais. Moi, je me suis mis à sa place à ce moment-là.
Mm.
Donc, il barrait en vomissant. Et forcément, les bateaux terminent dans les récifs. Il y a eu plusieurs cas. Et voilà, donc... Il s'est pris d'autres bateaux, des bateaux de confrères à lui. Le bélier 5 et 6 ont existé en même temps lorsqu'il a voulu monter une flotte, mais les deux se sont rentrés dedans.
Mmh.
C'est directement au 7.
Bon, compliqué du coup avec notre capitaine Vomi qui restera toute sa vie en fait un des pires marins que le monde ait connu littéralement pour couler 11 bateaux en quelques dizaines d'années. Là, l'émission passe assez vite. Est-ce qu'on peut expliquer, dans l'introduction, je parlais de ce fameux sac de Panama, on a donné quelques indices avec cette recherche, on va dire, qui le suivra toute sa vie, de son couvre-chef qu'il a perdu dans sa première bataille, on va dire. Qu'est-ce qui l'amène ici, à Panama, et pourquoi mettre un sac, toute une ville comme ça, en Amérique du Sud ?
C'est dans une taverne, finalement, on va lui dire... Enfin, il aura cherché ce chapeau toute sa vie, tout le monde le sait. Et tout le monde sait que c'est un peu justement la faiblesse d'Henry Morgan. Et souvent, pour s'extirper d'une bagarre avec lui, il suffit justement de le rappeler à son chapeau, de lui dire qu'on sait où est son chapeau. Il va passer sa vie à le chercher, jusqu'au jour où justement, dans cette taverne, il entend dire que son chapeau serait à Panama.
Oui, Panama, parce que c'est une ville de chapeliers à l'époque, qui fait sa fortune et qui fait sa réputation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on connaît le chapeau qui s'appelle sous le nom du Panama actuellement. Et donc, il arrive avec le bélier neuf et il met la ville de Panama à feu et à sang, hein, cherchant son chapeau dans toutes les ruelles. Et il ne laisse aucun pavé pas retourné pour trouver son bicorne.
Alors, on le sait maintenant avec l'histoire écrite, il ne l'aura pas trouvé.
Jamais.
Mais non.
Plus jamais.
Une ville mise à sac pour une recherche d'un chapeau qu'il n'aura pas trouvé.
Son bicorne a été retrouvé en 1782, donc pas loin de 100 ans après sa mort, et est aujourd'hui exposé dans un musée à Édimbourg.
Musée qui serait a priori hanté par le fantôme justement de Henry Morgan qui veut empêcher les gens de s'approcher de son chapeau.
On entendrait les bruits de vomi quand on se balade la nuit dans les couloirs.
Ok, moi j'ai déjà fait, ça fait...
Moi, je pense qu'ils mettent des micros ou des
enceintes. Non, moi, j'y étais. Non, c'était pas des enceintes. C'était pour de vrai.
Je suis un peu sceptique.
J'ai un doute à ce sujet.
Vous aussi, allez visiter le musée d'Édimbourg pour entendre les bruits de vomi du capitaine Vomi. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au pirate Henry Morgan. Vous retrouvez l'émission en podcast sur Prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.